À toutes et à tous, Catherine Mann au micro pour vous proposer de nous mettre à l'écoute des psaumes de la Bible. Nous continuons de nous intéresser aux psaumes qui ont été choisis dans le calendrier des messes dominicales et nous parcourons successivement les trois années du cycle liturgique des dimanches. Nous regardons aussi donc comment les lectures de la messe éclairent ce choix du psaume ou souvent les quelques versets qui en sont extraits. Notre cheminement nous a amenés à présent au premier dimanche ordinaire de l'année C. Et nous voyons aujourd'hui quel psaume va nous proposer le troisième dimanche ordinaire C. Il s'agit du psaume 19 selon la numérotation hébraïque ou 18 dans la numérotation latine. Ce psaume 19 a une composition complexe au point qu'il est généralement divisé en deux pour le chant liturgique. On découpe une première partie qui va des versets 1 à 8 pour célébrer la gloire de Dieu qui est visible dans la création et la nature. Et d'autre part, la deuxième partie des versets 9 à 15 va faire plutôt l'éloge de la loi. Et pour ce troisième dimanche ordinaire C, nous avons une sélection de 4 versets dans la deuxième partie du psaume, donc versets 8, 9, 10 et 15, qui sont donc à la gloire de la loi du Seigneur. Je vous propose de commencer par écouter une première fois ce psaume 19, donc abrégé pour la messe, ici la version de Michel Wackenheim. La messe du troisième dimanche ordinaire C nous propose comme première lecture un long extrait d'un livre assez peu connu de la Bible, le livre de Néhémie. Ici, chapitre 8, versets 1 à 10, avec quand même quelques coupures. Ce texte raconte essentiellement comment, après l'exil à Babylone et de retour sur sa terre, le peuple d'Israël va redécouvrir le livre de la loi de Moïse. C'est un texte intéressant parce qu'il nous montre comment une lecture publique devient déjà une forme de liturgie dont nos célébrations actuelles gardent toujours la trace. Je vous lis pour commencer une partie des 5 premiers versets. « Quand arriva la fête du 7e mois, tout le peuple se rassembla comme un seul homme sur la place située devant la porte des eaux. On demanda au scribe Esdras d'apporter le livre de la loi de Moïse que le Seigneur avait donné à Israël. Alors Esdras apporta la loi en présence de l'assemblée composée d'hommes, de femmes et de tous les enfants en âge de comprendre. Esdras, tourné vers la place de la porte des eaux, fit la lecture dans le livre, depuis le lever du jour jusqu'à midi. Tout le peuple écoutait la lecture de la loi. Le scribe Esdras se tenait sur une tribune de bois construite tout exprès. Tout le peuple le voyait, car il dominait l'assemblée. Voilà, je trouve qu'on a là l'ancêtre de notre liturgie de la parole. Le peuple entier est à l'écoute de la parole de Dieu, sauf qu'ici, cela dure plusieurs heures. Avant de lire la suite de ce texte, nous allons encore écouter le psaume 19 dans une version un peu différente, celle du Père Gélinot qui donne ici sa propre traduction et bien sûr sa composition musicale. Reprenons donc la suite de la première lecture du troisième dimanche ordinaire C du livre de Néhémie. Esdras ouvrit le livre. Quand il ouvrit le livre, tout le monde se mit debout. Alors Esdras bénit le Seigneur, le Dieu très grand, et tout le peuple, levant les mains, répondit « Amen, Amen ». Puis ils s'inclinèrent et se prosternèrent devant le Seigneur, visage contre terre. Esdras lisait un passage dans le livre de la loi de Dieu. Puis les Lévites traduisaient, donnaient le sens et l'on pouvait comprendre. Néhémie, le gouverneur, Esdras qui était prêtre et scribe, et les Lévites qui donnaient des explications, dirent à tout le peuple « Ce jour est consacré au Seigneur votre Dieu. Ne prenez pas le deuil, ne pleurez pas. » car ils pleuraient tous en entendant les paroles de la loi. Esdras leur dit encore, « Allez, mangez des viandes savoureuses, buvez des boissons aromatisées et envoyez une part à celui qui n'a rien, car ce jour est consacré à notre Dieu. Ne vous affligez pas, la joie du Seigneur est votre rempart. » Nous retrouvons donc ici encore une structure de célébration qui se perpétue toujours dans nos messes. Vous reconnaissez les prières à Dieu auxquelles le peuple debout répond en disant « Amen », puis les inclinations profondes, ensuite, après les lectures, les commentaires qui doivent aider à comprendre les textes, et enfin, les réjouissances particulières pour ce jour consacré à Dieu, jour du Seigneur, devenu en latin « dies dominicus », c'est-à-dire notre mot ensuite en français « dimanche ». Ce qui est différent pour nos messes actuelles, c'est surtout, bien sûr, que nous n'aurions sûrement plus la patience d'écouter les lectures depuis le lever du jour jusqu'à midi, comme nous dit ce texte. Revenons donc maintenant au psaume 19, qui magnifie cette loi du Seigneur, et écoutons à nouveau une version pour la messe du troisième dimanche ordinaire, c'est celle du Père André Gouze.
Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie.
La loi du Seigneur est parfaite, qui redonne vie.
La charte du Seigneur est sûre, qui rend sage les simples.
Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur.
Le commandement du Seigneur est rapide, il clarifie le regard. Tes paroles, Seigneur,
qu'il inspire est pure, elle est là pour toujours.
Les décisions du Seigneur sont justes et vraiment équitables.
Accueille les paroles de ma bouche, le murmure de mon cœur.
Qu'ils parviennent devant toi, Seigneur, mon rocher, mon défenseur. Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie.
La deuxième lecture du troisième dimanche ordinaire C est elle aussi très longue, extrêmement longue, puisqu'il y a en tout 19 versets, les versets 12 à 30 du chapitre 12 de la première lettre de saint Paul aux Corinthiens. Pour Paul, qui venait de terminer un plaidoyer pour la diversité des dons dans l'Église, il s'agit là de démontrer que cette diversité n'empêche pas l'unité. Et l'exemple qu'il prend, c'est le corps humain. Je vous lis les versets d'introduction, versets 12 et 13. « Frères, prenons une comparaison. Notre corps forme un tout, il a pourtant plusieurs membres, et tous les membres, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en est ainsi pour le Christ. Tous, juifs ou païens, esclaves ou hommes libres, nous avons été baptisés dans l'unique esprit pour former un seul corps. Tous, nous avons été désaltérés par l'unique esprit. » Voilà, j'arrête là. La démonstration qui vient ensuite développe tout cela en détail, en parlant de la main, de l'oreille, des yeux. J'ajoute juste quelques versets ensuite. « Mais dans le corps, Dieu a disposé les différents membres comme il l'a voulu. Dieu a organisé le corps de telle façon qu'on porte plus de respect à ce qui en est le plus dépourvu. Un peu plus loin, vous êtes le corps du Christ. » Et chacun pour votre part, vous êtes les membres de ce corps. Donc arrêtons un peu cette lecture parce qu'à partir du verset 27, l'argumentation de Paul va légèrement changer. Réfléchissons déjà au rapport qu'il peut y avoir entre ce texte et le psaume 19. Pour ma part, je verrai dans le corps humain une manifestation de la loi de Dieu parce que ce corps répond à des lois physiologiques et des lois biologiques qui font partie des lois de la création. Et nous devons y reconnaître le Dieu, créateur du ciel et de la terre, comme nous le disons dans le Credo. Prenons le temps d'écouter à nouveau ce psaume 19 pour honorer la diversité des membres du corps. Et alors, je vous en propose pour ça une version un peu inhabituelle.
La joie du Seigneur est notre rempart, ses paroles sont esprit et vie.
La joie du Seigneur est notre rempart, ses paroles sont esprit et vie.
La loi du Seigneur est parfaite, qui redonne vie.
La charte du Seigneur est sûre, qui rend sage les simples.
La joie du Seigneur est notre rempart,
ses paroles sont esprit et vie.
Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur.
Le commandement du Seigneur est limpide, il clarifie le regard. La joie du Seigneur est notre rempart, ses paroles sont esprit et vie. La crainte qu'il inspire est pure, elle est là pour toujours. Les décisions du Seigneur sont justes et vraiment équitables.
Désirable que l'or, une masse d'enfants. Plus savoureuse que le miel qui coule des rayons.
La joie du Seigneur est notre rempart, ses paroles sont.
Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance.
Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi
Reprenons le texte de saint Paul aux Corinthiens, donc la deuxième lecture du troisième dimanche ordinaire C, à partir du verset 28. « Parmi ceux que Dieu a placés ainsi dans l'Église, il y a, premièrement, des apôtres, deuxièmement, des prophètes, troisièmement, ceux qui sont chargés d'enseigner, puis ceux qui font des miracles, ceux qui ont le don de guérir, ceux qui ont la charge d'assister leurs frères ou de les aider, ceux qui disent des paroles mystérieuses. Tout le monde, évidemment, n'est pas apôtre, tout le monde n'est pas prophète ni chargé d'enseigner, tout le monde n'a pas à faire des miracles, à guérir, à dire des paroles mystérieuses ou à les interpréter. » Voilà, ce qui est particulier dans cette partie du texte, c'est que saint Paul met clairement ici une hiérarchie dans les dons et les ministères. Jusque-là, on pouvait penser que chacun étant différent, chacun avait la même importance et qu'il y avait une équivalence entre tous. Mais ici, l'ordre qui est décrit est un ordre décroissant, donc depuis le rôle essentiel des apôtres jusqu'au don anecdotique, comme le don de la glossolalie. Pour saint Paul, je crois qu'il s'agit surtout d'aider à établir de l'ordre dans les communautés, qui sont de plus en plus nombreuses. Il ne pensait sans doute pas que cette hiérarchisation s'opposait à une égalité de tous, mais il voulait organiser la complémentarité. Toute communauté humaine demande un minimum d'ordre et d'organisation pour fonctionner. Cela fait partie, me semble-t-il, de l'enseignement de la loi de Dieu, dont parle aussi le psaume 19. Pourtant, de nos jours, me semble-t-il, les notions de loi et d'ordre ne sont plus tellement appréciées et cela se glisse même dans l'interprétation du psaume. C'est pourquoi je vous fais écouter à présent une méditation contemporaine sur ce psaume 19 par un groupe paroissial du Centre Beaubourg à Paris. Vous remarquerez que l'idée de loi est très adoucie.
La loi du Seigneur est limpide, elle chante la joie de mon cœur, elle chante la joie de mon cœur.
La loi du Seigneur est limpide, elle libère la joie de mon cœur. Nous croyons connaître ta loi, nous en déclinons les impératifs de 1 à 10. Nous croyons savoir par cœur ce qui est permis en décompte de ce qui est défendu. Nous l'avons appris des livres et des lévites, de génération en génération. Seigneur, nous t'avons transformé en maître de grammaire, en précepteur sourcilleux de morale. Et le monde est devenu triste et gris, comme un mauvais matin d'école. Pourtant, la beauté du firmament, l'harmonie de la terre, le chant du psalmiste et le souffle du prophète nous invitent sans cesse à une nouvelle création. Quels sont ces préceptes qui sanctifient les plus humbles de tes serviteurs et qui rendent la vie? Parce que ta loi est la grâce et le don et le pardon tout ensemble? Parce qu'elle propose un chemin d'humanité et de communion, parce qu'elle t'associe avec intimité à chaque vivant. Elle bouleverse l'ordre de nos habitudes et ignore nos commandements. Elle porte des paroles impensables, amoureuses, saisissantes, offrandes toujours posées au-devant de nous. Cette loi qui invite simplement chacun à être aimé, la démesure de ton amour pour nous.
Voyons enfin ce que l'évangile du troisième dimanche ordinaire C vient apporter comme éclairage pour le psaume 19. Il s'agit d'un texte composite formé de 4 versets du début de l'évangile de saint Luc et de 8 versets tirés du chapitre 4 de ce même évangile de Luc, versets 14 à 21. L'ensemble veut nous montrer les débuts de la vie publique de Jésus, comment il enseignait dans les synagogues en général, et en particulier dans la synagogue de Nazareth, sa ville d'enfance. Je vais vous lire simplement les versets 15 à 21 du chapitre 4 de Luc. Jésus enseignait dans les synagogues des Juifs et tout le monde faisait son éloge. Il vint à Nazareth où il avait grandi. Comme il en avait l'habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat et se leva pour faire la lecture. On lui présenta le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et lut le passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux prisonniers qu'ils sont libres, aux aveugles qu'ils verront la lumière, apporter aux opprimés la libération, annoncer une année de bienfaits accordée par le Seigneur. » Jésus referma le livre, le rendit au servant et s'assit. Tous dans la synagogue avaient les yeux fixés sur lui. Alors il se mit à parler et dit « Cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre, c'est aujourd'hui qu'elle s'accomplit. » Voilà, donc saint Luc nous décrit ici une scène classique de la vie juive. Jésus se rend à l'office synagogal comme tous les samedis pour s'y plonger dans l'étude de la loi. Il y prend un tour de lecture, lit le paragraphe prévu pour ce jour-là. Il s'agit en fait de la deuxième lecture, puisque c'est un extrait du prophète Isaïe. La première lecture étant toujours tirée du Pentateuque, de la loi au sens strict. Mais ce que le judaïsme appelle l'étude de la loi s'étend bien sûr à tous les livres de la Bible, c'est-à-dire la Torah, les prophètes et tous les écrits de sagesse et les livres historiques. Nous voyons donc Jésus tel qu'il s'inscrit dans sa tradition, à la différence près qu'en plus il vient incarner la parole de la loi. Et c'est donc le début d'un enseignement nouveau qui va tout bouleverser et s'étendre bien au-delà de la tradition juive, bien sûr. Ainsi, le psaume 19 qui fait l'éloge de la loi annonce aussi, malgré lui, je dirais comme prophétiquement, déjà le Verbe incarné en Jésus-Christ. Il propose déjà une louange qui va déborder les limites d'Israël. Aussi, pour terminer notre émission, je vous propose d'écouter maintenant les moines du mont Athos nous chanter le psaume 19 en grec. Et je vous dis à présent au revoir, chers auditeurs, à très bientôt.